Bien-aimé Père Céleste, Créateur du ciel, de la terre et tout ce qui s'y trouve, nous te disons merci pour ce privilège que nous venons de recevoir encore ce soir. Depuis le matin, tu as été avec nous, tu as pourvu à tous nos besoins quotidiens. Et nous te disons merci pour cela, Père. Tu ne nous as pas oubliés, Père éternel. Tes faveurs se sont encore renouvelées. Tes compassions ne sont jamais à leur terme, mais se sont renouvelées ainsi que ta bonté. Alors nous te disons merci pour cela, Seigneur. Nous sommes arrivés ici, c'est pour écouter ta parole. Alors nous te demandons de faire le travail qu'un homme ne peut pas faire. La bouche sera la mienne, mais les paroles doivent être les tiennes. Nous nous abandonnons entièrement entre tes mains. Que ton esprit puisse prendre le contrôle de tout ce lieu, comme tu as déjà commencé avec nous, maintenant continue et termine avec nous. Nous te prions dans le précieux nom et suffisant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Ceux de tout cœur, je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Disons grand merci au Seigneur d'avoir permis que nous soyons réunis encore ici ce soir. Nous ne sommes pas réunis pour écouter quelqu'un, nous ne sommes pas venus ici pour vendre, mais nous sommes venus pour écouter la parole qui est la vérité de Dieu. Amen. Et cette parole a la puissance de nous transformer. Voilà pourquoi nous sommes ici. Cette parole a la puissance de nous redresser. Amen. Voilà. Nous sommes amenés depuis le 2 février, je pense, à parler du thème de la prière comme une pratique indispensable dans la marche du chrétien. Mais je pense que, comme un frère me l'a dit, on a perdu la ferveur par rapport à cette pratique de la prière. Il faut attendre qu'il y ait de dégâts, qu'il y ait de détresse, qu'il y ait de dépression, qu'il y ait de situations un peu difficiles en ce moment-là. Il faut qu'on décrète, hein, voilà, des moments de prière, on va faire ceci. Non. Non, je pense que le Seigneur est toujours bon au moment opportun. Il permet que nous puissions remettre encore les pendules à l'heure par rapport à cette pratique qui est assez importante dans notre marche. Ça va? Dans le premier chapitre de ce thème, nous avons essayé de montrer ce que la prière était et ce qu'elle n'était pas. Dans le deuxième point, nous avons essayé de parler, on a posé la question, pourquoi devons-nous prier? Alors, Dieu, par sa grâce, nous a bien instruits pour nous donner toutes les raisons possibles qui doivent nous pousser à prier, n'est-ce pas? C'était une nécessité. D'ailleurs, le Seigneur, c'était sa pratique de tous les jours. Nous avons observé plusieurs réalités dans la vie de Christ en ce qui concerne cette pratique de la prière. Et nous avons abordé le troisième point qui était le domaine de la prière avec Philippiens 4, verset 6. Nous avons été convaincus que tout sujet dans notre vie de tous les jours peut faire l'objet d'une prière. Si c'est légitime, alléluia, si le désir n'est pas légitime, on ne prie pas sinon, c'est une offense par rapport à Dieu. Amen. Ce soir, je vous invite à vous lever, de prendre l'évangile de Matthieu au chapitre 7. Nous allons lire deux versets. Le verset 7 et 8. Matthieu 7, versets 7 et 8. Nous y sommes. Nous pouvons lire alors ensemble. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Alléluia. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je vous invite à vous asseoir. À travers ces deux versets, je désire aborder ce soir le quatrième point que j'avais annoncé dans mon introduction par rapport à ce thème. Et ce quatrième point, nous allons l'intituler ce soir, la réponse à la prière consiste à recevoir depuis ce que nous venons de lire. Les deux versets. Alléluia. Le Seigneur est occupé à enseigner là-dessus. Il ne faut pas être magicien pour comprendre ce que le Seigneur est en train de dire. C'est pour cela que je prie ce sujet. La réponse à la prière consiste à recevoir. Demandez. Et l'on vous donnera. Cherchez. Et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira dans la réponse. Car quiconque demande, reçoit, n'est-ce pas? Celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Alléluia. La réponse à la prière consiste à recevoir. Amen. Mon frère, ma sœur, il y a lieu de répéter toujours ce que le message nous a appris. Ce n'est pas un péché. Il faut les répéter, marteler, pour enfoncer les clous, pour que nous puissions saisir certaines vérités de la parole. Nous comprenons avec notre intelligence, mais il serait mieux que nous puissions saisir ce que le message nous a dit. Ce qui n'est pas écrit dans la parole n'est pas destiné à la prédication. Alléluia. Celui qui prêche quelque chose qui n'est pas dans la parole, même si il le présente comme une révélation. Alléluia. Il s'attirera la malédiction selon Galates 1, verset 8. Alléluia. Alors, le sujet que nous allons aborder ce soir est très controversé dans la mesure où, dans la chrétienté, les uns disent que dire non à une prière n'est pas une réponse à la prière. Les autres disent que quand Dieu répond à nos prières, c'est pour nous dire oui. Écoutons le messager, ce qu'il nous dit. Dans Dieu confirmant, oui, Dieu confirmant sa parole. Il nous dit ceci, à la page 14, paragraphe 61. Il peut arriver que des chrétiens très fermes, des très braves gens, s'attachent à ce qui est faux. Alléluia. pensant que cela est juste. Mais toutes ces choses doivent être éprouvées pour voir si elles sont justes ou fausses. Et c'est notre devoir à tous, puisque nous nous attendons à aller au ciel lorsque Jésus reviendra. Et c'est le devoir des pasteurs, lorsqu'une telle question est posée, qu'ils résolvent ces problèmes et qu'ils répondent preuve à l'appui, afin que les gens comprennent et que personne ne soit trouvé dans l'erreur, s'étant attaché à ce qui est faux. Alléluia. Qu'est-ce que la parole enseigne réellement par rapport à ce sujet? La réponse à la prière consiste à recevoir les avertissements du prophète. Maintenant, qu'est-ce que la parole enseigne réellement? Alléluia. Matthieu 7, versets 7, 8. Même pas avec des lunettes. Nous voyons bien ce que les Écritures disent. Alléluia. Par rapport à ça. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. C'est le Seigneur qui enseigne par rapport à la prière. Amen. Puisque nous avons défini en prenant cette instruction du Seigneur. Nous avons déduit la prière égale demander. Mon frère, ma soeur, Dieu pense ce qu'il dit et il sait très bien ce qu'il dit. Alléluia. Voilà pourquoi notre opinion par rapport à ce que Dieu dit ne compte pas. Ésaïe 40 nous dit ceci. Ésaïe 40, verset 18, nous dit ceci. À qui voulez-vous comparer Dieu? Amen. Et quelle image ferez-vous son égal? Et Paul, parlant aux Romains, Romains 11, il nous dit ceci. Romains 11, verset 34, oui. Paul nous dit ceci. Dans Romains 11, il dit, verset 34, « Qui a connu la pensée du Seigneur ? Ou qui a été son conseiller ? » Verset 35, « Qui lui a donné le premier pour qu'il aille à recevoir en retour ?» Alléluia. Donc, Dieu reste souverain. Ce qu'il dit, il a pensé à ce qu'il dit et il est clair. Quand nous lisons dans Matthieu 7, 7, demandez. Dans Matthieu 7, 7, quand nous lisons, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Ça dit bien ce que ça veut dire. Alléluia. Dieu est digne de confiance. Il fait toujours ce qu'il a promis. Et il fait toujours ce qu'il a dit. S'il nous a dit demander et l'on vous donnera, ça sera ainsi. S'il a dit chercher et vous trouverez, ça sera ainsi. frappez et l'on vous ouvrira. Ça doit être ainsi. Allez, seulement, mettons-le à l'épreuve, comme le dit Malachie 3, verset 10. Alléluia. Mettons-le tout simplement à l'épreuve. Et nous verrons le résultat. Pour définir la prière, il y a deux semaines, nous nous sommes appuyés sur sept instructions du Seigneur dans les évangiles. Alléluia. On a pris Matthieu, on a pris Marc, on a pris Luc, n'est-ce pas? Et nous sommes arrivés à la conclusion que prier, c'est demander. Dans toutes les sept instructions que nous avons traversées, nous avons eu le temps de lire avec vous, n'est-ce pas? Calmement, dans Matthieu, dans Marc et dans Luc. Et aujourd'hui, nous voudrions nous appuyer sur l'instruction que le Seigneur donnait dans Matthieu 7, verset 8. Ici, dans Matthieu 7, verset 7 et 8, le Seigneur enseigne clairement que la réponse à la prière consiste à recevoir. Nous sommes d'accord? Le Seigneur enseigne clairement que la réponse à la prière consiste à recevoir. Donc, le moyen d'obtenir une chose, c'est de la demander. Alléluia. Le moyen d'obtenir une chose, c'est de la demander. Nous pouvons maintenant observer trois vérités dans Matthieu 7, versets 7 et 8. La première vérité, quand il dit « demandez et l'on vous donnera », cela voudrait dire que la prière consiste à demander. L'exaucement doit être nécessaire. L'exaucement doit nécessairement consister à recevoir. C'est le Seigneur qui le dit. Alléluia. Deuxième vérité. Si, dans Matthieu 7, 7, chercher, c'est prier, alors trouver est la réponse à la prière. N'est-ce pas? C'est ça que le Seigneur dit. Troisième vérité. Si frapper est encore une phase de la prière, la réponse de Dieu consistera à nous ouvrir la porte. Amen. C'est ça qui est écrit. Et dans Jean 16, Jean 16, verset 24, le Seigneur nous dit encore une fois, demandez et vous recevrez. Alléluia, et la suite. Vous l'avez? Jean 16, verset 24. Le Seigneur nous dit une fois, demandez et vous recevrez. Et dans Jacques 4, verset 2, nous pouvons encore lire Jacques 4, verset 2. Jacques 4, verset 2. Nous pouvons encore lire au milieu de ce verset. Vous ne possédez pas. Pourquoi? Vous ne possédez pas. Pourquoi? Parce que vous ne demandez pas. Amen. Alors, avec toutes ces preuves, comme le prophète l'a dit, hein, il a dit, c'est le devoir de pasteur, lorsqu'une question est posée, qu'il résolve ses problèmes et qu'il réponde preuve à l'appui. Amen. Nous nous sommes appuyés sur la parole même. Alors avec tous ces témoins, nous pouvons dire que obtenir de Dieu est donc la réponse logique à la prière biblique véritable. Alléluia. Ah, il faut garder ma pensée telle que je l'énonce. Avec tous ces témoins que nous venons d'appeler à la barre, nous pouvons dire qu'obtenir de Dieu est donc la réponse logique à la prière, je dis bien, biblique, véritable. Amen. Très important. Prière biblique, véritable. Toutes les prières ne sont pas bibliques. Toutes les prières ne sont pas véritables. On verra tout au long de la démarche. Même pas aujourd'hui, même pas demain. Hein. Toutes les prières ne sont pas bibliques et véritables. Alors, si la réponse à la prière consiste à recevoir, maintenant, question. Comment demander de manière à obtenir ce qu'on a demandé. Voilà pourquoi je disais, la prière biblique véritable. Ça va? Comment demander de manière à obtenir ce qu'on a demandé? On peut bien dire, on va gêner. Mais c'est bien ça. C'est bien ça. De quelle manière? N'oubliez pas, dans Matthieu 18-19, il est écrit, si deux s'accordent, il ne suffit pas de s'accorder au niveau de la promesse quand vous vous accordez, puis vous voyez directement la promesse se réaliser. Non. Il faut s'accorder sur tous les points qui feront que la chose puisse exister. Et là, vous serez efficace dans votre démarche. Frères, sœurs, retenons ceci. Quand nous travaillons, c'est nous qui travaillons. Quand nous prions, c'est Dieu qui se met à l'œuvre. Alléluia. C'est la vérité décrite dans Matthieu 18, verset 19, dont je viens de parler tout à l'heure. Quand deux s'accordent, Matthieu, lisons-le, au lieu de le dire de mémoire, au risque de dire des bêtises, Matthieu 18, 19, il dit, « Je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander, alléluia, une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans le ciel. » Alors là, c'est le Père lui-même qui va se mettre en œuvre. Alléluia. Quand vous prenez la décision, que vous vous accordez, selon ce qu'on a vu, alors le Seigneur lui-même va se mettre en œuvre. Cette prière qui met Dieu à l'œuvre sur base de demander et recevoir, mon frère, ma sœur, doit remplir certaines conditions. Cette prière qui met Dieu à l'œuvre sur base de demander et de recevoir doit remplir certaines conditions. Ce pourquoi, assemblée, faisons très très attention à notre manière de prier. Si la prière était une pratique absolue pour le Seigneur, ça doit être autant pour pour ses disciples. Parce que les disciples n'est pas plus que son maître, mais les disciples accomplis sera comme son maître. Alléluia. Si lui ne blaguait pas au niveau de la prière, même quand il est sur la croix, il prie. Il prie. Nous devons donc faire attention à notre manière de prier. Alors là, il y a des conditions. J'en citerai quelques-unes selon ma petite compréhension ou selon ma petite saisie que j'ai faite en méditant. Première condition, il doit y avoir un abandon total à la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que il ne peut exister une vie de prière victorieuse pour un enfant de Dieu vivant dans la rébellion. Impossible. C'est pour cela qu'il est écrit dans le psaume 37, verset 4. Qu'est-ce qui est écrit? Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais observons bien. La promesse, il te donnera ce que ton cœur désire, dépend de la condition. Quelle condition? Fais d'abord de l'Éternel tes délices. Alléluia. Tu dois d'abord faire de l'Éternel tes délices. Et alors, Dieu pourra accomplir la promesse. Nous sommes d'accord? Celui qui trouve en Dieu ses délices aura des désirs saints. Il priera selon la volonté de Dieu parce qu'il fait de l'Éternel ses délices. Dieu est notre Père. Ses enfants doivent être soumis à leur père. Dans la vie naturelle ici, nos enfants, nous les éduquons pour qu'ils puissent être soumis à la maison, être polis, être obéissants. Et c'est comme cela que la relation va s'établir dans la famille. Et c'est comme cela que votre fils viendra s'asseoir sur vos genoux, commencer à te demander, papa, veux-tu m'acheter un avion? Lui n'a pas de souci, parce que tu es son père, n'est-ce pas? Et c'est de cette façon aussi, si toi et moi nous faisons de l'Éternel notre délice, sachons-le bien, que il accomplira ce qu'il a promis pour nous. Alléluia. Il l'accomplira. Parce qu'il est dit dans Matthieu. Qu'est-ce qu'il dit dans Matthieu? Il dit dans Matthieu 7, qu'est-ce qu'il dit? Au verset 11, Matthieu 7, verset 11, il dit, si donc, méchant comme vous l'êtes, voyez-vous, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Et à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Voyez-vous, nous des méchants comme là, des méchants, de messieurs insoumis. Nous savons donner à nos enfants de bonnes choses. Alors combien, vous voyez? Il explique lui-même. Donc, le problème est de faire seulement de l'Éternel nos délices. Alléluia. Nous, avec notre méchanceté, on est à même de satisfaire à nos enfants. Alléluia. Alors, et donc, lui, qu'est-ce qu'il fera? Donc, première condition, il doit avoir un abandon total à la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi? Faire de l'Éternel ses délices. Amen. Deux. Soyons capables de discerner cette volonté. Alléluia. Soyons capables de discerner cette volonté. Regardons un peu la situation du Seigneur par rapport à son Père. Matthieu 26. Discerner cette volonté. Matthieu 26, 39. Matthieu 26, 39. Nous lisons ceci. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe se loigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alléluia. Non pas ce que moi je veux, mais ce que tu veux. Abandon total à la volonté de Dieu. Amen. Jean 4. Jean 4, verset 34. Nous pouvons lire ceci. Jean 4, verset 34. Nous lisons ceci. Jésus leur dit : ma nourriture et de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alléluia. Jean 9. Jean 9. Nous pouvons Jean 9, verset 31, nous pouvons lire ceci. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, celui-là qu'il exauce. Alléluia. Qu'est-ce qui va te permettre de discerner la volonté de Dieu? Bien sûr que c'est la parole de Dieu qui va te permettre, me permettre de discerner la volonté de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Jean 15, 7 déclare ceci. Jean 15, 7 nous dit: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Nous voyons ici, à travers Jean 15 et 7, que pour obtenir ce que nous demandons à Dieu, il importe de demeurer en Christ, et que sa parole demeure en nous. Impossible de connaître la volonté de Dieu à moins d'être familier avec sa parole. Alléluia. Il faut nécessairement être familier avec sa parole. C'est de cette manière que vous serez rendu capable de connaître et de discerner la volonté de Dieu. C'est pourquoi le psaume 1, versets 1 à 3, il est écrit ceci. Il est écrit ceci. Psaume 1, les trois premiers versets. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Verset 2. Mais qui trouve son plaisir, voyez-vous, c'est ce que nous venons de lire dans le psaume 37, verset 4. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la mérite jour et nuit. Cette personne qui est dans cette condition-là, le verset 3 dit ceci, en ce qui le concerne, en ce qui la concerne plutôt, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Il n'est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Amen. Mais mes frères et sœurs, il ne suffit pas en effet de lire la Bible chaque jour. Encore faut-il que la parole soit enracinée dans nos cœurs. Alléluia. Et qu'est-ce qui fait ce travail d'enracinement de la parole dans nos cœurs? C'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Jean 14, verset 26, nous dit ceci. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera, voyez-vous, toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Quand on demeure dans la parole, la personne qui viendra enseigner, comme à l'unique Éthiopien qui lisait, je ne sais quoi, et Dieu dépêche Philippe pour aller expliquer la chose. Alléluia. Donc le Saint-Esprit est là pour venir enraciner. Il va t'assister. C'est le prof. Son onction nous enseigne comme on a vu le dimanche. Alléluia. Viendra nous enseigner pour que la parole s'enracine en nous. Et quand nous nous mettrons en position de demande, Romains 8 dit ceci. Romains 8, versets 26 à 27. Il nous dit ceci. Romains 8, versets 26 à 27, il nous dit ceci. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Amen. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Vous m'entendez? Demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Alléluia. Discerner sa volonté. Dieu refuse d'accomplir sa volonté seul. Amen. Il veut que nous prions avant d'exécuter sa volonté. Nous devons prier. Dieu a une volonté. Alléluia. Sa volonté, c'est sa parole. Alléluia. Il a tout mis, il a tout renfermé dans la parole. Donc vous n'allez pas me dire, parce que vous commencez à prier, c'est vous qui initiez les choses. Non. Alléluia. Soyons au clair. Ce n'est pas nous qui initions les choses. Dieu refuse d'accomplir sa volonté seul. Il veut que nous prions avant d'exécuter sa volonté. Alors voici comment nous pouvons expliquer le principe de la prière dans ces cas. 1. Dieu a une volonté. Amen. 2. Nous entrons en communion avec sa volonté. Et de là, nous prions. 3. Pendant que nous prions, Dieu exauce notre prière. Alléluia. Parce que nous avons su discerner quelle est sa volonté. 3e condition, c'est l'incontournable. 3 lettres. Demandez par la foi. Demandez par la foi, Dieu confirmant sa parole. D'abord, dans la foi fondamentale, le fondement fondamental pour la foi. À la page 2, le messager dit ceci, la foi, paragraphe 6, la foi ne signifie pas de longues réunions de prière qui ne finissent pas. C'est bien beau. La foi ne signifie pas de longues réunions de prière qui n'en finissent pas. Elle ne signifie pas de longs jeûnes. Rien de tout cela. Comme ça, on est au clair. Amen. La foi est une chose inconsciente. Votre réelle foi, vous en êtes inconscient. Vous ne savez pas cela. La foi que vous avez, c'est quelque chose dont vous êtes inconscient. Eh bien, premièrement, avant que nous puissions avoir la foi, nous devons avoir un fondement pour la foi. Alors, dans Dieu confirmant sa parole, écoutez-moi bien, à la page 17, la suite du paragraphe 69, qui est à la page 16. Nous commençons à la page 16. Paragraphe 69, il dit, c'est pourquoi la foi est la substance des choses que l'on espère et non pas la preuve. Ce n'est pas la vue, le goût, le toucher, l'odorat, ou lui, vous devez croire. Et la foi doit avoir un point d'appui. Alléluia. Et tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, 3 points de suspension, la foi en Dieu ne peut avoir d'autre point d'appui qu'une promesse de Dieu. Alléluia. Demandez par la foi. Mais vous devez avoir des promesses de Dieu. Alléluia. Vous devez avoir des promesses de Dieu, pas des promesses des hommes, promesses de Dieu. C'est ça le point d'appui de votre foi. La foi est la condition la plus souvent mentionnée dans la parole en relation avec la prière. Voici quelques exemples, mes frères et sœurs. Matthieu 9, verset 29. Nous lisons ceci. Matthieu 9, verset 29. Alors, il leur toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère. Prenez garde que personne ne le sache. Mais dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tous les pays. Matthieu 17 d'abord. Matthieu 17, verset 20. Nous lisons, « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous l'ai dit en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. » Matthieu 21, verset 22. Nous lisons ceci. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière. Alléluia. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Marc 21. Non, pas Marc 21, là je me suis trompé, il n'y a pas de 21 ici. C'est Luc 17 plutôt. Luc 17. Luc 17, verset 5. Luc 17, verset 5, 6, nous lisons. Les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Amen. Augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ces sycomores, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Amen. Prenons donc la peine d'approfondir ces promesses et de nous les approprier. Car il est bien clair que la foi peut obtenir de Dieu tout ce qu'il tient en réserve pour nous. C'est la foi qui peut l'obtenir. Alors, mon frère, ma sœur, si tu as le moindre doute dans ton cœur quand tu pries, tu feras mieux de cesser ta prière. Amen. Car Dieu n'exaucera jamais aucune prière s'il existe un doute au fond de ton cœur, de mon cœur. Rien. Vous oubliez. Ça va? Vous oubliez ça. Quatrième condition pour obtenir la persévérance dans la prière. Persévérance, action de persévérer. Alléluia. Action de persévérer. Dans le message « Persévérer », à la page 2, paragraphe 10, le messager définit en ces termes le verbe « persévérer ». Ce mot d'après le Webster, les quelques notes que j'en ai prises là, il veut dire « persister ». Persévérer, et ça dans la poursuite d'un but. Alléluia. Persévérer dans la poursuite d'un but. Persister. Voilà ce qu'est persévérer. Des hommes de tous les âges qui ont foi en ce qu'ils essayent d'accomplir ont persévéré. Premièrement, personne ne peut persévérer sans d'abord savoir ce qu'il essaye d'accomplir. Très important. Deuxièmement, et vous devez d'abord savoir ce que vous essayez d'accomplir. Et ensuite, avoir la foi que vous recevrez ce que vous essayez d'obtenir. Amen. Et cela vous fait persister quelque chose que vous savez être vrai. Nous avons beaucoup de passages dans les Écritures, comme le temps file. Je vais lire seulement dans Acte 1er, les cas des disciples qui ont persévéré pendant 10 jours. Hein? Voyez-vous? Acte 10, verset 14, on nous rapporte ceci. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ça va? Ils sont restés dans la chambre haute. Ils ont persévéré dans la prière. Nous avons l'exemple qu'on a lu le vendredi, Luc, je pense 18, verset 2 à 7. Cette femme devant le juge unique, elle venait l'importuner. Alléluia. L'importuner. Jusqu'à ce qu'elle a obtenu ce qu'elle voulait. Et Luc 11 nous rapporte aussi, un cas de persévérance. Luc 11, verset 5. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, non, ne m'importune pas. La porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner de pain. Je vous l'ai dit. Même s'il ne se levait pas pour le lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Alléluia. Nous avons le cas de Daniel, verset 9. Chapitre 9, à partir du verset 3. Il a prié avec persévérance. Nous avons le cas de Néhémie, rapidement. Néhémie 1, au verset 4. Si quelqu'un a trouvé Pelli. Oui. Merci. Jour et nuit, il avait un but. Alléluia. Et il sait ce qu'il veut obtenir de son Père. Alléluia. Il persévérait. Nous voyons par ces paroles que la prière persévérante est celle qui obtient une réponse favorable selon la promesse de Dieu, n'est-ce pas? S'attendre à Dieu implique sans nul doute la persévérance dans la prière. C'est aussi une façon d'encourager notre faible foi. Amen. Attention, attention, mon frère, ma sœur. Dieu ne nous exauce pas selon nos mérites, mais bien en vertu de sa grâce infinie, tout simplement. Alléluia. Ah oui, oui, c'est bien de persévérer. Mais tu ne vas pas dire parce que tu t'as mérité. Non. C'est bien en vertu de sa grâce infinie que Dieu va t'exaucer. Nous pouvons retenir qu'il n'y a pas de limite du temps en ce qui concerne la prière. Ici, Néhémie nous donne son exemple. Jour et nuit. Alléluia. Jour et nuit. Il était occupé à bosser. Alléluia. Parce qu'il poursuivait un but. Un but précis. Cinquième point. Demandez au nom de Jésus. Colossiens nous dit ceci. Colossiens 3, verset 17. Colossiens 3, verset 17, puisqu'on a dit, cinquième condition, Dieu a demandé au nom de Jésus-Christ. Colossiens 3, 17 dit ceci. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père, n'est-ce pas? Et nous avons des promesses claires. Nous avons des promesses claires là-dessus. Jean 14 nous dit ceci. Jean 14, 13 et 14 nous dit. Tout et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié. C'est une promesse, n'est-ce pas? Très bien. Alors, Jean 16, 24 nous dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Qu'est-ce qu'il dit? Demandez en mon nom. Alléluia. Demandez en mon nom. Alors maintenant, mes frères et sœurs, demandez en mon nom. Frère, le demander en mon nom, nous devons d'abord savoir ce que ça signifie. Ce n'est pas un QR code. Hein? Ça va? Ce n'est pas une étiquette qu'on va apposer à n'importe quelle marchandise, au nom de Jésus, au nom de Jésus comme le perroquet. Non. Que signifie d'abord au nom de Jésus? Nous devons être clairs par rapport à ça au nom de Jésus. Quand nous prions au nom de Jésus, ça veut dire quoi? Oui, mon dépasse, ok, mais il faut d'abord qu'on comprenne ce que ça veut dire. Nous avons des promesses, nous devons les demander au nom de Jésus. Demander dans le nom de Jésus signifie que nous savons que notre prière lui est agréable. Ça, c'est un. Et qu'elle est faite pour sa gloire et à son honneur. C'est ça que ça veut dire. Et prier au nom de Jésus, c'est l'équivalent de la prière dans la volonté de Dieu. Alléluia. Quand vous savez sa volonté, maintenant vous pouvez vous mettre en état de prier. Demander dans le nom de Jésus signifie que nous savons que notre prière lui est agréable et qu'elle est faite pour sa gloire et à son honneur. Alléluia. Puisque Colossiens vient de dire tout ce que nous devons faire. Alléluia. Tout ce que nous devons faire en acte ou en parole. Alléluia. Ça doit être toujours en son nom pour sa gloire. La réponse à la prière consiste à recevoir. Frères et sœurs, attention, attention de prier avec négligence. Il y a ces conditions-là. Soyons sensibles. Abandon total à la volonté de Dieu. Discerner la volonté de Dieu. Demander dans la foi, la persévérance dans la prière. Et quand nous prions, nous demandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne prions pas avec négligence. Sans piété. Attention. Ésaïe 59. Ésaïe 59 est clair. Ésaïe 59 nous dit ceci. Non. Les deux premiers versets. Non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. C'est clair? Ça ne nécessite même pas un commentaire. Alors faites attention. Ne priez pas sans piété. Hein? Et d'une manière malseillante. Faisons attention. Le Seigneur Jésus, dans sa prière, dans le modèle de la prière qu'il nous a donné dans Jean, dans Matthieu 6, versets 5 à 15, le Seigneur attire notre attention. Il dit ceci. On ne doit pas prier comme des hypocrites. Hein? Vous savez ça. Hein? Pas besoin de lire. Hein? On ne doit pas prier comme des hypocrites. Alléluia. Comme les païens. Hein? Cette prière-là ne donnera pas de résultats. Prier comme un hypocrite, prier comme un païen, tu perds ton temps. Attention, attention, le Seigneur a attiré notre attention dans Matthieu 6, verset 5 jusqu'au verset 7. Verset 5 jusqu'au verset 15. Et retenons que sans la prière, hein, le royaume de Dieu ne viendra pas. Alléluia. C'est toujours dans la prière, il apprend notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Alléluia. C'est dans la prière. Et sans la prière, ce règne ne viendra jamais. Je peux dire, si le canal est fermé, l'eau peut telle coulée? Non. Hein? Si le canal est fermé, l'eau ne coulera pas. Maintenant, comme le Seigneur dit, on ne doit pas prier comme des païens ou des hypocrites. Question. D'où viennent les paroles que tu prononces dans tes prières? D'où viennent les paroles que tu prononces dans tes prières? Voyez-vous? D'où viennent les paroles que tu prononces dans tes prières? Alors, il faut faire un examen de conscience. Ah, le Seigneur attire notre attention, je ne dois pas prier comme un hypocrite, comme un païen. Question. D'où viennent les paroles que tu prononces dans tes prières? Si la parole domine ton cœur, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va influencer ta bouche. Alléluia. Car il est écrit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, selon Matthieu 12, 34. Alléluia. Maintenant, c'est à nous de choisir. Qu'est-ce que nous regardons? Hein? Qu'est-ce qui nourrit notre cœur pendant toute la journée? Voyez-vous? Voyez-vous? Et alors, quand tu vas te mettre à prier, tu vas prier comme un païen. Il n'y a rien de consistant dans ta prière, chef. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais toi, tu ne t'affectionnes pas aux choses d'en haut. Tu vas prier comme un païen. Ah, mon frère, je ne suis pas méchant. Tu vas prier comme un païen, comme un hypocrite. Lo samo ya banana nzambe ezalingu ya pe